Vous écoutez RTL.
Bonjour. Dans un instant, vous retrouverez le jeu d'Henri Kubnik, Réponse à tout, présenté par Anaïs Bouton,
la nouvelle d'Antenne 2. Tout de suite, votre dernier épisode pour tout l'or du Transvaal. Et puis après, votre animateur chéri,
Thomas Hugues.
Le Vénard. Tout de suite, un rendez-vous à ne pas manquer, vous le verrez.
La curiosité est un vilain défaut.
Afin de suivre le 15 000 km, ce qu'ils font, ou le 50 000 km ce qu'ils font, ça y est, je vais y arriver.
Sur RTL.
Que nous allons rejoindre en direct à Bobino grâce aux caméras de Roger Benhamou.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la curiosité sur RTL. Il faut qu'on vous fasse un aveu. Depuis ce matin, toute l'équipe se marre à nous imaginer, Anaïs et moi, en speakerine, speakerin. Ils sont même remontés dans les archives de l'INA pour retrouver les vidéos les plus compromettantes nous concernant quand on avait encore de l'acné et les cheveux hirsutes sur la tête. Bref, ils se sont bien marrés toute la matinée, notre équipe de la curiosité. Et nous, on est très heureux de recevoir Olivier Mine pour parler de l'histoire de ces speakerines, n'est-ce pas, Anaïs?
Ouais, parce que vous vous souvenez, la semaine dernière, il s'en est passé des choses. On a parlé du France, on a parlé des mollusques, on a parlé des rosés, on a parlé de Mickey.
Mais attends, Olivier, faut rester toute la semaine parce qu'il y a un thème très intéressant vendredi.
J'ai cru comprendre.
Voilà, on va parler du pénis vendredi dans l'émission, donc soyez là aussi.
Oh, fantastique! Bon, alors bref,
soyez là aussi, Anaïs.
Mais moi, j'y serai, ça, j'aime mieux vous dire.
Bon, alors, les speakerines, allez, on y va.
Allez, les speakerines avec d'ailleurs le merveilleux présentateur aussi, le merveilleux animateur, le merveilleux speakerin.
Faut pas en faire non plus.
Olivier Mine. Hein,
ça suffit.
Alors, qu'est-ce que c'était ces speakerines? Et surtout, qu'est-ce que c'était? La télé, c'était quand même un gros bazar à l'époque, si j'ose dire.
Ce sera raccord avec l'émission de vendredi.
Voilà, jolie transition.
D'abord, merci de me recevoir, vraiment. Et une pensée, bien sûr, vous pensez bien, une pensée tendre pour Sidonie Bonnec, même si j'ai un amour infini pour Mlle Bouton, mais parce que, voilà, elle est ma comparse tous les après-midi après cette émission sur France 2. Écoutez,
donc,
c'est vrai, c'était un gros bazar.
Pourquoi il y a besoin de speakerine? Parce que c'est compliqué, il y a des bugs.
Parce que c'est compliqué, en effet, parce que ce sont les débuts, ce sont les vagissements d'un média qui se cherche encore. La technologie est au rendez-vous, certes, c'est une technologie fragile. Les directs, il n'y a que ça, bien entendu. Et les films qui peuvent être diffusés à l'époque sont des films donc de cinéma, filmés par une caméra de télévision. Et ces films, parfois, rompent, se mettent à brûler. Et dans ce cas-là, l'antenne est interrompue. Parfois, ce sont les caméras qui sont lourdes comme des brontosaures, qui elles-mêmes lâche parce que la chaleur des studios est épouvantable et que ça grille les premiers composants électroniques.
Et donc on imagine un rôle nouveau, c'est ça, celui de la speakerine qui va tenir l'antenne.
C'est ça, celle qui va en fait donner l'idée que malgré tout l'antenne est gérée alors qu'elle n'est absolument pas gérée, que tout le monde est à l'aveugle.
Il court comme des dératés dans les couloirs.
Mais complet.
C'est un des directeurs de programme qui a cette idée au départ.
Vladimir Porcher, qui avait travaillé avec René Barthélémy sur les premiers programmes expérimentaux des années 30, c'est lui qui se souvenait qu'une femme aux formes généreuses, qui s'appelait Suzy Vinquer, avec des accroche-cœurs auxquels elle tenait comme la prunelle de ses yeux, avait été appelée en effet par Barthélémy pour présenter ses premiers programmes diffusés en 1937. Et il s'était dit, quand en 1949 la RTF est créée, que en fait c'est sans doute ça la solution, demander à une jeune femme jolie certes, mais qui a également quelque chose dans la tête, qui sait bien parler le français, de faire patienter ses premiers téléspectateurs et de ne pas décourager les potentiels autres d'acheter un récepteur, parce que à cette époque-là, il y a à peine 3000 récepteurs de télévision ventilés sur l'ensemble du territoire en 1949, donc d'inciter ces potentiels nouveaux téléspectateurs à y aller, à croire en la télévision, même s'il n'y a que des ratés, car en fait, il n'y a que des ratés.
Alors la première, qui fut à la fois votre mentor et la mère d'Antoine Decaune, je ne sais pas dans quel ordre il faut mettre ça, mais racontez-nous un peu comment elle est arrivée là, c'est-à-dire que
Mais Jacqueline Joubert, car c'est en effet d'elle dont il s'agit, Jacqueline Joubert est la première incarnation officielle, dirons-nous, de la télévision française.
Elle passe un concours, elle passe des tests.
Elle passe un concours, en effet, à Cognac-Jay, devant, ce soir-là, on va dire, une audience énorme, 300 téléspectateurs, semble-t-il.
Ah, c'était retransmis en direct?
C'était retransmis
comme
en direct
Miss France,
pour
en fait,
ce concours. Oui, totalement. C'était une sorte de Miss France avant l'heure. Ouais. Il y a là quelques candidates, donc, jeunes femmes plutôt aventurières, car, encore une fois, la télévision existe réellement depuis le sortir de la guerre, depuis que l'émetteur de la Tour Eiffel a été rendu par les Américains après la libération.
Mais c'est quoi les tests, Olivier Mine? C'est des mots compliqués à prononcer, alors, des textes improbables.
Par exemple, en effet, il y a ça.
Il lui avait collé une liste, pas piqué des hannetons.
Oui, hein.
Ludmila Tcherina, Boara Mineviche, Rimsky-Korsakov et
Mrinalini Sarabal, j'aurais perdu. Moi.
Que des gens, d'ailleurs, oubliés pour la plupart, alors que pourtant ce sont des grands talents, ce sont des artistes tous ici évoqués. Mmh. Mais en effet, c'était pour tester leur capacité à articuler et surtout à se débrouiller avec des mots imprononçables quand il s'agirait peut-être plus tard d'avoir justement à devoir parler avec des noms qui sont à coucher dehors.
Mmh. Alors elles sont audacieuses, elles sont pionnières, elles sont volontaires, souvent elles ne comptent que sur elles-mêmes et ça vaut mieux. On va vous raconter l'histoire de ces speakerines avec parfois un petit parfum de scandale autour d'elles. Restez avec nous sur RTL.
RTL.
Oh shit, à la télé, y a plus de speakerines. Y a des films de série B que j'estime à 15 centimes.
La curiosité est un vilain défaut.
Bien, vous l'avez remarqué, il nous est impossible de continuer cette émission. Louis Berriot nous demande donc de vous présenter ses excuses.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Nous vous tiendrons informés de la suite du programme tout à l'heure.
Fantastique mise en onde de La Touche, DJ La Touche. On a entendu MC Solar, obsolète, et puis Dorothée avec cette rupture d'antenne, parce que de retour dans votre cabinet de curiosité, on est avec Olivier Mine, animateur, auteur, deuxième homme de la vie de Sidonie Bonnec après vous.
J'espère bien.
Thomas Hugues, on raconte les speakerines.
On embrasse Jérôme, son vrai mari.
Oui,
hein.
C'est ça aussi.
Ah oui, non, mais je parle de sa vie professionnelle. On n'en dit pas les habits,
pardon,
Thomas.
Pardon.
On raconte les speakerines, une histoire de femme à la télévision que vous publiez aux éditions du Rocher. Alors, on parlait de l'antenne à l'époque. À quoi ça ressemblait? On l'a dit, c'est-à-dire que c'était un peu l'approvisionnation et un foutoir. Mais Jacqueline Joubert, elle a parfois dû tenir l'antenne pendant des
45 minutes un jour.
Trois quarts d'heure toute seule.
Toute seule, sans savoir d'ailleurs qu'elle allait mettre 45 minutes pour enfin permettre aux téléspectateurs de suivre à nouveau le programme. Et dans ce cas-là, au bout de 2 minutes, 3 minutes, Jacqueline ayant à peu près asséché tous les thèmes d'improvisation possibles, se dit tiens, je vais diffuser, avec la complicité des techniciens, je vais diffuser de la musique. Et donc elle dit à l'antenne, aux quelques téléspectateurs qui regardent la télévision à cette époque-là, appelez-nous à Cognac-Jay et on fera des dédicaces des disques que nous allons passer.
Très bonne
donc
idée
elle crée avant l'heure, c'est entre Stop
c'est
ou
stop
encore,
encore.
Et,
oui.
Et les émissions de dédicaces de disques. Donc, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent la télévision, mais suffisamment en tout cas pour faire sauter le standard. Les câbles gris au rez-de-chaussée...
ça n'arrange rien.
Donc ça n'arrange rien. Et elle se fait convoquer le lendemain avec pas une mise à pied, mais en tout cas un avertissement indiquant qu'elle n'avait pas le droit de s'approprier l'antenne à des fins personnelles. Comme quoi.
Mais dans la France de l'époque, donc vous nous disiez, Olivier Mine, très peu évidemment de récepteurs, très peu de télévision dans les foyers. Elles sont connues, ces premières speakerines, sont des stars ou alors pas du tout?
Non, au tout début, en 49 et en 50, quand Catherine Langeais arrive en secours pour s'occuper, elle, d'une autre définition d'image, Jacqueline est sur le 441 ligne de définition d'image, et Catherine Langeais est appelée pour les images expérimentales du 819 lignes, ce qui deviendra la haute définition de l'époque. Ça veut dire qu'on n'a pas couru du chemin depuis. Mais peu de gens les connaissent. Mais après, il y a un événement, c'est 53, le couronnement de la reine d'Angleterre, l'arrivée aussi à l'antenne d'une jeune femme qui s'appelle Jacqueline Cora et qui, elle, parlant l'anglais, sera engagée parce qu'il y a cet événement en collaboration avec la BBC. C'est donc de la Mondiovision. Première fois que les télévisions collaborent toutes ensemble pour la retransmission d'un événement à part, qui est celui de ce couronnement. Et là, explosion des récepteurs. 90 000 récepteurs sont vendus en une année et c'est à ce moment-là qu'elles deviennent réellement les reines du petit écran.
Une histoire de femme à la télévision.
Oui, on va le faire gagner le livre.
Ah, mais c'est une très bonne idée. Speakerine, c'est le titre. C'est publié aux éditions du Rocher. Tiens, vous pouvez nous appeler au 3210. On va vous poser une question facile pour gagner le livre. Le premier qui appelle, évidemment. Comment s'appelle Olivier Mine? Faut donner la réponse.
Et le livre, et vous le dédicacerez, Olivier?
Avec grand plaisir.
Ça
voilà.
Sympa.
Donc ça, ce sera un joli cadeau.
Alors, on parle de ces femmes un peu qui s'émancipent peu à peu à la télé, quand
oui,
même.
Parce que c'est vrai, rapidement, quand Joubert arrive comme téléspeakerine, puisque c'était la dénomination exacte, elle se rend compte très vite qu'elle est corvéable à merci et surtout que son salaire est absolument ridicule.
Elle est payée quoi, 30 francs,
à peu près 30 francs. francs par mois. Et donc, elle se rend compte que c'est absolument... Oui, c'était 30 francs par mois, à peu près. C'était vraiment comme une sorte de défraiement. Ça n'avait pas d'avantage. Mais 30 francs de l'époque.
Oui, donc, d'accord.
30 francs nouveaux. C'est-à-dire, on est à 3000 francs anciens.
Oh là, bon, on va s'y perdre. Mais tout cas, elle est mal payée.
Mais en tout cas, elle est très mal payée. Elle va donc voir l'administrateur qui est rue de Grenelle au ministère des PTT. Et cette jeune femme, elle a 28 ans, Jacqueline. Elle va voir ce type qui, bien sûr, est déjà grisonnant en lui disant « Je veux que mon salaire soit à la même hauteur que les animateurs de radio. » Il faut savoir qu'à l'époque, les animateurs de radio sont ceux qui gagnent le plus d'argent. Et ce sera le cas d'ailleurs jusqu'au milieu des années 80, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ce n'est pas la télévision qui était la meilleure pourvoyeuse, mais c'était la radio jusqu'avant les années fric, comme on les a appelées, avec la privatisation de TF1 et l'arrivée de Berlusconi.
Mais on a du mal à l'imaginer, Olivier Mine, le... Coralie Lutinier, notre productrice, qui fait la tête parce qu'elle voulait que je lance la pub. Vous allez répondre à la question juste après, Olivier.
Avec plaisir.
Sur les histoires de... Comment ces jeunes femmes étaient scrutées? C'est-à-dire que tout ce qu'on leur interdisait dans leur façon de s'habiller, dans ce qu'elles pouvaient dire ou ne pas dire
enceinte
à l'antenne,
aussi.
Être enceinte ou pas, vous allez nous raconter tout ça parce que c'est révélateur de ce qu'était la société
d'une époque,
française.
Tout à fait.
Il ne me reste effectivement plus que le temps de vous dire que demain, c'est Patricia Poirier qui vous tiendra compagnie.
RTL.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. Alors ça, je le dis une fois pour les deux mois, parce que franchement, c'est pas très original et puis elles le disent toutes. Hein.
La curiosité est un vilain défaut.
Ce qu'il y a de plus important finalement, c'est pas d'avoir des speakerines, mais c'est d'avoir la speakerine.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Speakerine, c'est le thème de notre curiosité, le titre du livre de notre invité Olivier Mine, livre publié aux éditions du Rocher. Olivier Mine, ce livre, il est passionnant parce que c'est aussi le reflet de la télévision et de la société française de l'époque, ces années 50, 60, où au gré de leur notoriété, les speakerines sont de plus en plus observées, scrutées, jusqu'à se faire virer. Pourquoi ? Pour une jupe un peu trop courte, c'est ça ?
Ça peut arriver en effet, même si le prétexte de la jupe cachait quelque chose d'autre.
Ça
c'est Noël Noblecourt qui n'a pas été speakerine de programme. Oui. Elle était ce qu'on appelait la speakerine de Télédimanche. C'était une émission qui passait donc, comme son nom l'indique, le dimanche. Mm-hmm. Et elle n'était qu'une sorte de co-animatrice téléspeakerine. Je dis co-animatrice téléspeakerine et je dis une sorte parce que c'est bien là encore le problème. La femme était pas vraiment, avait pas vraiment le premier rôle ou un rôle à l'identique de celui qui était le meneur principal, qui était à l'époque Raymond Marciac. Mais c'est vrai, vous avez raison, la femme est scrutée, ce qui fait d'ailleurs que lorsqu'elle ose des choses dans les nouvelles générations de femmes, quand Marianne Le Sen au milieu des années 50 arrive un jour en pantalon, ça crée un immense scandale. Catherine Langeais elle-même d'ailleurs rabrouera la petite en lui disant que ce ne sont pas des tenues à porter à l'antenne, mais elle ne fut pas la seule, les téléspectateurs eux-mêmes n'avaient pas apprécié. Spectateurs hommes, pas femmes pour le coup. Mmh. Et puis quand la mini-jupe arrive, quand tout d'un coup la femme continue son chemin d'émancipation et que ce soit en termes de coiffure ou donc de vêtements, elle exprime là sa liberté et les speakerines suivent ce mouvement-là, pas tout encore une fois. Catherine Langeais reste très dans les vêtements, on va dire, de l'après-guerre, quand la nouvelle génération, elle, commence à montrer une épaule dénudée, un décolleté un peu plus profond.
En cas de décolleté plongeant, qu'est-ce qui se passe immédiatement?
Le standard crame à nouveau, avec les disques de Joubert quelques années auparavant. Mais encore une fois, pas parce que les gens appellent pour savoir quel est le nom de cette jeune femme si jolie, c'était Anne-Marie Pesson, une des grandes voix de cette maison, qui était à l'antenne, mais simplement pour s'en plaindre, pour dire que c'était honteux. On n'est pas là en 1930, on est là, pour ce qui est de Anne-Marie Pesson, en 1960. Et puis, bien sûr, la grossesse qui est interdite d'être visible.
Si Denis Bonnec, qui est enceinte sur France 2 avec vous depuis...
Elle aurait été virée.
Hein,
si Denis, si tu nous écoutes, on t'attend tranquillement. Fais plein de poutous à ton bébé.
Enfin, elle aurait été virée. Je pense que j'aurais fait comme Henri Spade l'a fait avec Jacqueline Joubert quand elle attendait Antoine Decaune, ou quand Guy Lux l'a fait, lui, avec Anne-Marie Pesson quand elle était enceinte de son petit garçon. C'est que je pense que j'aurais moi aussi protégé Sidonie et j'aurais en fait été frondeur par rapport à la direction de la télévision. C'est ce que ces hommes ont fait. Ils ont protégé ces deux femmes et elles sont restées à l'antenne.
D'accord.
Mais en se camouflant le plus possible, car la rondeur, malgré tout, d'un ventre était considérée par les téléspectateurs autant que par ceux qui dirigeaient la télévision comme étant indigne.
Et puis, il y a ces clichés, pour ne pas dire plus. Par exemple, vous citez dans votre livre ce mag télé qui titre à propos de Catherine Langeais. Je vais le citer, hein. C'est un vrai titre. Hein.
Un vrai titre, oui.
Elle a pour principal plaisir de préparer une pipe à Pierre Sabag tous les soirs.
C'est exact. Et d'ailleurs, je crois
on peut lire ça dans les magazines télé.
Bien entendu. Alors, il faut préciser, bien sûr, à tous nos jeunes auditeurs que Pierre Sabag, qui a été celui qui a créé le journal télévisé en 1949, puis ensuite des émissions mythiques comme, entre autres, Au Théâtre ce soir, était donc un immense journaliste qui était toujours, comme le commissaire Maigret, pipe au bec.
À l'antenne.
Et à l'antenne d'ailleurs, en effet,
oui,
comme dans le privé.
Il fumait à la télé à l'époque.
Et donc, forcément, le journaliste fait référence à cela.
Bah,
mais c'est vrai que l'énoncer ainsi.
Pas mon genre d'avoir les idées mal tournées.
Et alors, on n'avait pas le droit tellement de rire, hein, parce qu'elles étaient la représentation de l'antenne, donc elles avaient quelque chose. Alors, Denise Fabre, par exemple, dont on se souvient tous, elle se marrait à l'antenne.
Elle se marrait, comme Anne-Marie Pesson quelques années auparavant, et toutes se sont fait convoquer à chaque fou rire. Denise, d'ailleurs, pourrait en témoigner si elle était avec nous. Elle s'est fait convoquer pratiquement à chaque fois. C'était considéré en effet comme malvenu, comme n'étant pas raccord avec la fonction symbolique que ces femmes incarnaient, qui était celle de. En fait, elles étaient la marque de la télévision, de la chaîne qui les employait.
Olivier, Mine, quand est-ce que les garçons débarquent ?
81.
C'est
Patrick.
Ouais.
Patrick. C'est Patrick Simpson-Jones qui est le premier speakerin qui ouvre la voie en France, alors que pour le coup, en Angleterre, les présentateurs de programmes officiaient déjà depuis les années 30 et à Télé Luxembourg il y avait déjà eu un premier speakerin, Jean Guiton, qui avait officié au Grand-Duché depuis un long moment. Mais bref, c'est lui qui, chez nous en France, ouvre cette voie
dans laquelle vous allez vous engouffrer quelques années plus tard.
Voilà, 9 ans plus tard, c'est moi qui vais fermer la marche, parce qu'en fait, c'est moi qui vais enterrer.
Et alors là, une histoire mais magnifique qu'il faut que tout le monde écoute, parce que c'est l'histoire d'un loser magnifique qui devient un grand winner. Mais on en parle tout de suite après la pub dans La Curiosité. Restez avec nous.
Teasing.
Puis on va pousser la porte d'une caserne de pompiers. Pardon, je fais mon teasing à moi aussi. Hein, puisque ce sera le second thème de l'émission juste après.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Allez, avec Olivier Mine, on vous parle des speakerines aujourd'hui dans votre curiosité sur RTL. Alors, Olivier, vous avez fait un casting. Un casting, c'est carrément autant n'emporte le vent.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Un casting, ça dure 3 minutes. Moi, il a duré 5 jours.
Et pourquoi ?
Parce que j'étais mauvais.
Vous êtes... Non, mais alors, attendez. Normalement, quand on est mauvais, on dit au revoir monsieur, on vous rappellera, puis on rappelle jamais.
Donc... Qu'est-ce qui s'occupe du casting ?
Jacqueline Joubert. C'est Jacqueline. Donc la première speakerine, elle est mandatée par Eve Ruggieri, directrice des programmes à l'époque d'Antenne 2, pour recruter deux nouvelles speakerines. Son casting est terminé, mais elle finit par accepter de me voir. Quand je dis ça, c'est parce que c'est une chef de service chez qui j'étais homme à tout faire à Antenne 2 qui l'a convaincue de me recevoir. Et donc elle se rend compte assez rapidement, hein, au bout de 3 minutes, que le garçon est mauvais comme un cochon. Et étrangement, en effet, au lieu de me dire on va vous rappeler, elle me dit on se revoit demain. Et ça a duré comme ça pendant 5 jours. 5 jours d'un calvaire épouvantable.
C'était quoi elle Anaïs, elle testait les bugs, elle disait...
Là, c'était simplement une annonce, donc c'est quelque chose d'assez classique, une annonce de programme à dire, à apprendre par cœur et à dire, donc c'était 45 secondes de texte, sincèrement on a connu pire, donc ça j'y allais, c'est pas ça le problème, mais j'étais raide comme la justice, j'avais la gorge sèche, je bafouillais, j'avais le regard fixe tel une perdrix prise dans les feux d'un 4x4 d'un chasseur, enfin bref, c'était ni fait ni affaire.
Non, c'est pas
Et puis finalement...
Il y avait de la marge.
C'est pas croyable.
Il ne pouvait y avoir qu'une marge de progression, mais qui allait dans le sens contraire.
C'est-à-dire donc elle avait l'œil, en fait. Elle vous a repéré.
Elle a dû sentir quelque chose sous la cendre.
Et puis après, une fois à l'antenne, vous avez mis votre... Sous la cendre, n'importe quoi.
Parce que j'étais carbonisé, moi, au moment où...
Elle a senti quelque chose, et après, vous avez mis votre patte à l'antenne. Vous faisiez que des conneries, il faut bien le dire.
Parce que j'ai été poussé par moment étant Joubert, moment de télé. Parce qu'elle m'avait dit, vas-y mon chéri, il faut dépoussiérer un peu tout ça, on n'en peut plus d'avoir des annonces. Par trop classique. Donc,
vous étiez convoqué aussi tous les jours.
Ah ben pratiquement, oui.
Bon, écoutez, on a adoré votre livre. On pourrait encore faire 2h30, mais il y a nos amis pompiers qui nous attendent.
Alors oui, d'abord il y a le pompier, puis après il y a une autre émission qui s'appelle On est fait pour s'entendre. Donc, va quand même falloir rendre l'antenne à maman. Quoi.
Alors c'est Gilbert Desplaces qui est dans la très belle région de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire qui gagne votre livre. Olivier, vous allez lui dédicacer. Merci encore d'être passé dans notre cabinet de curiosité.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.